Bonjour, bonjour à tous. Mardi 14 novembre, bienvenue aux Voix de Service. Je suis en compagnie de Michel Audet, comme tous les mardis matins. Bonjour,
oui.
Michel.
Bien, bonjour, oui.
Et moi-même, Louis de Bernice, pour vous lire toutes nos chroniques. Allons-y un peu, Michel, quel est le menu aujourd'hui?
Voici le menu, je vous amène faire un tour en Toscane. Le soleil de Toscane. Et puis, je vous amène aussi à la Tour Eiffel, mais pour une raison très, très, très particulière.
Ah.
C'est pas seulement une description de la Tour Eiffel. Puis, je vais vous parler, vous savez, avec la météo.
Toujours.
Particulièrement au Québec, comment ce rapport très étroit. Un petit peu comment la météo influence notre vie.
Mm-hmm.
Beaucoup, ici.
Énormément.
Oui.
Pour ma part, nous aurons des sujets insolites, tout autant que les vôtres, j'ai l'impression, aujourd'hui. Nous parlerons de l'homme qui résiste au venin de serpent. Également d'un calendrier d'hommes sirènes qui fait malheur, et également du pape qui enrichit l'actualité en ce moment au Vatican. C'est à découvrir dans quelques instants.
Alors, on va faire un petit tour en Toscane, en ce matin plutôt nuageux. On a besoin d'un peu de soleil.
Allons nous réchauffer.
Oui, vous savez qu'elle seule, la Toscane, réunit une demi-douzaine de sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et parmi ceux-ci figurent plusieurs villes d'art, particulièrement le village de San Gimignano, qui n'est pas nécessairement très connu, et la campagne de Val d'Orcia. C'est moins connu, mais aussi spectaculaire qu'une autre qui est très connue, la campagne de Chianti. Alors, quand on roule sur les routes panoramiques, qu'on est surpris et apaisé aussi de voir l'harmonie des couleurs, les proportions, les formes, vous avez des magnifiques lignes de cyprès et des vignobles bien quadrillés, bien alignés, ordonnés, et incroyable palette de verre avec de l'oranger, qui sont les maisons de briques et leurs toits de tuiles. Alors, quelle belle palette de couleurs, hein? Les matins d'automne, les collines, les vignobles se laissent deviner derrière des petits nuages de brume. Et tout à coup, le soleil perce et fait reluire l'argenté des oliviers. Au Moyen Âge, les luttes légendaires entre Florence et Sienne ont provoqué la naissance d'une foule de villages fortifiés qu'on retrouve un peu partout dans la campagne toscane. Certains d'entre eux sont cachés entre les nuages. Ils semblent presque inatteignables. Finalement, on y monte par de longues routes en lacets qui réservent des vues absolument spectaculaires. Et c'est comme ça qu'on va atteindre San Gimignano, considéré comme l'un des plus beaux villages de la Toscane, grâce au caractère original de ses tours médiévales. Après avoir été convoité, comme en témoigne la triple muraille, San Gimignano connut une période importante, florissante, on pourrait dire, au Moyen Âge. Et des riches familles se sont fait construire des palais. Et aux yeux de plusieurs experts, San Gimignano aurait été j'aime pas beaucoup l'expression, mais le Manhattan du Moyen Âge. Ça fait assez curieux pour une ville du Moyen Âge, le Manhattan du Moyen Âge. J'aime pas beaucoup ces comparaisons-là. Heureusement, le village a conservé 14 de ses 78 tours médiévales qui dominent un labyrinthe de ruelles et une triple muraille. Vous avez la Piazza della Cisterna, la Cisterne, la Piazza del Duomo, le Dôme. Et tout en haut du village, vous avez le musée du vin. Toujours intéressant à visiter lors d'une petite dégustation, bien sûr. Vous avez plusieurs autres beaux villages. Montalcino, par exemple, ils vont vous proposer, bien sûr, un peu partout des gelato. Hein? Gelato al limone. Et il serait dommage de quitter Montalcino. On s'en va visiter son château, un de ses grands vignobles et le village de Montepulciano. Bien connu, hein, Montepulciano. Il nous offre son vino nobile à déguster, évidemment. Montepulciano qu'on trouve chez nous. Hein. Il y a deux, je ne m'embarquerai pas dans cette chose-là, mais il y a deux appellations pour Montepulciano. Il y en a un qui vient de la ville de Montepulciano, et j'ai appris son étang à Montepulciano. Et il y a un autre qui est le cépage, Montepulciano. Et c'est deux choses différentes. Comme la Toscane possède une dizaine d'appellations contrôlées, ben, c'est presque impossible d'y rouler sans percevoir une route des vins. Oh, c'est un gros problème, hein? Un gros problème de choix. Il faut faire des choix. Vous avez bien sûr celle du Chianti Classico, qu'on connaît ici. C'est un des premiers vins, je dirais, italiens qu'on a connus ici au Québec, avec sa fameuse bouteille de paille qu'on retrouvait à la fin avec une chandelle un petit peu partout. On le voit de moins en moins. D'ailleurs, la fameuse bouteille de paille, je pense qu'elle n'existe plus. Alors, les routes de Chianti, comme les routes précédentes, grimpent en lacets, ils serpentent dans un paysage vert, des forêts, des vignobles. Et vous ne saviez probablement pas, je l'ignorais en tout cas, qu'on trouve un petit coin du Québec au milieu du terroir de Montepulciano. Et il s'agit du vignoble de Lemicene. Vous avez le coq et la fleur d'Élysée nous accueillent, puisque la propriétaire, je ne m'appelle pas la Papinicouc, c'est une jeune viticultrice en trentaine, est originaire de Saint-Bruno de Montarville. Ah, Paula a eu un coup de cœur pour la patrie de ses grands-parents et depuis 6 ans, elle tient les rênes de ce domaine de 8 hectares. Elle produit du Chianti Classico, fait à partir de Sangiovese, et son Chianti Classico régulier est généralement conservé un peu plus d'un an dans des fûts de chêne. Et son Chianti Classico Riserva, ben, pendant 2 ans. Et bien sûr, j'ai parlé un petit peu de la campagne, juste quelques instants. Je peux peut-être vous parler aussi d'autres endroits peut-être plus connus. Vous avez à Pise, la place des Miracles, les incontournables villes d'art de Florence et de Sienne. Ils sont disputés le pouvoir au Moyen Âge et ils continuent de rivaliser de beauté avec leur cathédrale, leur palais remarquable, date de la Renaissance. Impossible de ne pas y apercevoir à tout moment une église, un bâtiment unique. Quantité de chefs-d'œuvre et de détails, hein, méritent notre attention. Entre autres choses, la Florence, la copie du David de Michel-Ange, c'est bien une copie, hein, qu'il y a sur la place publique. Le vrai, l'authentique se trouve dans un musée. De David de Michel-Ange sur la Piazza della Signoria. Si on va à Florence, il faut aller sur la Piazza della Signoria. Et les portes du baptistère, Santa Maria del Fiore, la Piazza del Campo à Sienne. Et un peu plus à l'ouest, tout près de Pise, vous avez la ville de Lucques, qui n'est pas très, très connue. Lucques. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'est vraiment une belle surprise. Ça portait un charme particulier, très différent des autres. Vous avez une promenade de quelques kilomètres qui scintille la vieille ville. Et quand on s'y promène, ça peut être à pied ou à vélo, on a une vue inusitée sur le toit des maisons et des églises qui se trouvent à l'intérieur des murs. Lucques mérite autant d'attention. Vous avez des beaux palais, des boutiques et la Piazza del Mercato, le lieu des anciennes arènes romaines. Je me souviens de Lucques, qui pour moi, c'est totalement inconnu. Tout à coup, j'arrive à Lucques et ça se donnait qu'il y avait une fanfare avec une parade. Moi, je pensais que c'était pour nous accueillir. Ça n'avait rien à voir. Il y avait une fête particulière. En passant, je vous parlais tout à l'heure du vignoble Mitchiné, de la Québécoise Paula Papinicouc. Eh bien, on peut trouver son vin à la Société des alcools. C'est le Mitchiné Chianti Classico et le Mitchiné Riserva, à des prix concurrentiels. Donc, assez étonnant, une Québécoise qui fabrique du Chianti. Alors, c'était un petit tour à vol d'oiseau de la Toscane.
Merci Michel pour ces airs de Dolce Vita. Allons maintenant à Londres. Nous restons en Europe, pas pour voyager cette fois-ci, pour une toute autre raison. Je vais vous parler d'un homme, pas banal, ma foi, puisqu'il s'agit de l'homme qui résiste au venin de serpent. Londres, depuis près de 30 ans, Steve Ludwin s'injecte du venin de serpent, une pratique qui a failli lui coûter la vie, mais qui pourrait sauver celle de milliers d'autres. Car grâce à lui, des chercheurs tentent de créer un nouveau type d'antivenin. Une exposition sur le venin au Musée d'histoire naturelle de Londres, qui débute vendredi, consacre un court film à cet homme grâce à qui la recherche médicale progresse. Installé dans son salon au cœur de Londres, Steve Ludwin, un Britannique de 51 ans, tient fermement la tête d'un Trimesererus popeiorum, un serpent originaire d'Asie d'un vert éclatant. Il extrait quelques gouttes de son venin. Dans quelques minutes, il se les injectera dans le bras à l'aide d'une seringue, un geste qu'il effectue régulièrement depuis la fin des années 80. Obsédé par les serpents, Steve Ludwin a commencé à s'injecter de petites quantités de venin alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Inspiré par Bill Haast, un Américain passionné de ces reptiles, dont il extrayait le venin à des fins de recherche médicale. Ça a l'air dingue, mais en fait, ça a potentiellement des effets positifs sur la santé, assure le quinquagénaire aux longs cheveux bruns. Ça a renforcé mon système immunitaire, je n'ai pas eu de rhume depuis 15 ans, assure-t-il, évoquant aussi des effets anti-âge. Mais cette pratique n'a rien d'un trip à la Jim Morrison, explique-t-il. Ça cause une souffrance extrême et c'est très très dangereux et je n'encourage personne à le faire. Ce musicien qui s'est injecté les venins de serpents parmi les plus dangereux du monde, mamba noir, cobra, fer de lance, a d'ailleurs eu plusieurs accidents, une overdose manquant même de lui coûter un bras. Son singulier passe-temps a pris un nouveau sens depuis qu'une équipe de chercheurs de l'université de Copenhague s'est fixée pour objectif de produire un antivenin grâce aux anticorps de ce donneur unique. Quand il s'injecte du venin, son système immunitaire répond. Nous espérons trouver des copies de ces anticorps, les isoler, les tester et en fin de compte en produire, explique Brian Lose, professeur à la faculté de santé et de sciences médicales à l'université de Copenhague et interrogé par téléphone. Depuis 2013, quatre chercheurs travaillent à temps plein sur ce projet qui devrait aboutir d'ici un an. Si cela fonctionne, il s'agirait du premier antivenin d'origine humaine conçu à partir d'un donneur qui s'est injecté différents venins de serpents. Jusqu'à présent, les antidotes sont obtenus en introduisant du venin en faible quantité dans un animal, le plus souvent un cheval, pour ensuite collecter les anticorps produits. Problème, les anticorps dérivés d'animaux sont aujourd'hui assez chers. Le prix moyen d'un traitement à l'hôpital est compris entre 2 000 et 3 000 et peut même aller jusqu'à 14 000 dans certains cas. Et il peut y avoir des effets secondaires. Avec un antivenin dérivé de l'homme, nous ne pouvons pas exclure complètement qu'il y aura des allergies, mais la probabilité est beaucoup plus faible qu'avec des anticorps issus d'animaux, compare le professeur Losse. Le chercheur estime que son antivenin coûterait environ seulement 100 $ et il espère pouvoir le distribuer gratuitement dans les pays à risque grâce au soutien de gouvernements, d'ONG, de l'UNICEF ou de l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, justement, les morsures de serpents sont d'ailleurs une question de santé publique négligée. L'organisation estime que chaque année, environ 5,4 millions de personnes dans le monde sont mordues par des serpents et qu'entre 81 000 et 138 000 en meurent. La science et peut-être les futures victimes de serpents peuvent remercier Steve pour ses efforts, mais d'un autre côté, il est très dangereux de s'auto-immuniser ainsi, relève le professeur. Steve s'est mis sérieusement en danger à plusieurs reprises, rappelle le chercheur, qui décourage fortement de l'imiter. Voilà pour ce chevalier de la médecine pas banal qui vit en symbiose avec ses reptiles, à ne pas reproduire, bien sûr.
Je pense que je vais continuer à recevoir l'injection anti-grippe plutôt que de recevoir...
C'est plus prudent et ça fait moins peur.
Absolument, tout à fait.
Souvenirs sont bien souvent de vieux amis qui nous appellent. Quand on est triste, on les entend. Ils ont des voix tellement belles. Celui qui tourne autour de moi est un reflet des beaux dimanches éparpillés dans les sous-bois où l'amour pleut en avalanche. Je me souviens d'un air d'accordéon qui traîne partout ses quatre notes. Un air vieillot dont j'ai perdu le nom. Musique tremblante qui radote. ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Et ça chante, chante, chante un air de fête. Une chanson qui parle tout haut de ma jeunesse. Mais les beaux jours n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde. Ils m'ont laissé au dernier rang et mon amour quitte à la ronde. Comme ils sont loin les souvenirs, les tours de vase, c'est l'espérance. On pleure un peu et pour finir, tout cela tient dans des romances. Je me souviens d'un air accordéon qui traîne partout ces quatre notes. Un air vieillot dont j'ai perdu le nom. Musique tremblante qui radote. Et ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Et ça chante, chante, chante un air de fête.
On vient d'entendre Zaza Fournier avec un air d'accordéon.
Bon, alors, je vous amène une autre destination, la Tour Eiffel. Il y a un Américain du New Jersey qui entend une remarque. Un mur par balle? Quoi? Et tout à fait interloqué alors qu'il s'apprête à monter dans la Tour Eiffel. Ben, d'ici un an, et ça c'est daté du mois de septembre, alors d'ici un an, l'endroit exact où il se trouve, c'est devant une paroi de verre de 3 mètres de haut qui est destinée à protéger les touristes des attentats à l'AK-47 et à la voiture Bélier, hein, malheureusement. Les travaux sont commencés la semaine du 15 septembre et doivent durer jusqu'en mai 2018. C'est quand même dommage qu'on en soit rendu là, hein, mais... Si c'est pas protégé, ben on va pas se plaindre. Un petit peu comme les fouilles dans les aéroports. Hein. Ça devient fastidieux, mais on est rendu là. Alors que la menace terroriste est toujours très élevée en France, comme en témoignent les attaques au Louvre, des Champs-Élysées, ben il était temps de trouver une solution permanente aux clôtures de métal temporaires qui ceinturent depuis 2 ans le monument le plus emblématique de Paris. En ce mur par balles transparent sera érigé le long de la Seine et du Champ de Mars, histoire de prévenir les attaques qui viendraient de la rue. Le point d'entrée actuel va être condamné. Alors, les visiteurs vont accéder désormais à la Dame de Fer par les entrées de côté latéral. Ça sera plus sécuritaire, mais plus esthétique que le mur actuel. Les Parisiens, eux, ben, ils ne voient pas tous d'un bon œil ce nouveau dispositif qui a été demandé par la préfecture de police. Certains ont exprimé leur mécontentement sur Twitter, déplorant notamment la victoire de l'obscurantisme et la tristesse de voir un musée en état de siège. Et d'autres se sont aussi inquiétés des possibles dégradations, affirmant que si le mur protégera des balles, ben, il ne pourra résister aux rayures, aux graffitis, chewing gum et autres affiches de tout acabit. Restent enfin tous ces vendeurs à la sauvette. Vous savez, quand vous allez près de la Tour Eiffel, là, avec les grands tapis où, qui sont étendus, où vous trouvez toutes sortes de babioles, et lorsque la police approche,
c'est la
tout
course.
À coup, vous voyez la course, tout le monde se sauve. Hein? Ben, ils proposent des tours Eiffel en plastique et toutes sortes de choses. Et un qu'on a abordé, il ne semblait pas du tout rassuré. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais on a peur qu'après, on n'aura plus d'espace pour travailler. Ça va être cloisonné d'une certaine façon. À noter que le site restera ouvert pendant toute la durée du chantier. Cette opération protectrice sera suivie d'une campagne de rénovation, peinture, rénovation des ascenseurs, qui devrait durer 5 ans. Et le coût, quand même, hein, un coût de 20 à 30 millions d'euros, quand même assez considérable. Et beaucoup de sous pour rien, c'est ce que croit un touriste néo-zélandais qui préfère taire son nom, qu'il rencontrait devant la Tour Eiffel. Et je ne connais pas la réalité sur le terrain, mais il me semble que ce n'est pas un mur qui arrêtera les terroristes. S'ils ne peuvent venir ici, ils iront ailleurs, c'est tout. C'est un peu le cas, hein. Ils trouvent toujours un autre endroit. Une autre tour parisienne fait aussi parler d'elle, le point de repère pour les uns et pour les autres. C'est un furoncle, un furoncle urbain. La tour Montparnasse subira bientôt une cure de jeunesse. Mm-hmm. Le projet dévoilé cette semaine prévoit que l'immeuble de 210 mètres, 58 étages, passera du noir au transparent, va abriter un hôtel des jardins intérieurs. Il va gagner 18 mètres en hauteur pour accueillir un étage d'agriculture biologique. Elle a été construite en 1973. Hein? Je ne me souviens pas de ça du tout. La tour Montparnasse n'a jamais su conquérir le cœur des Français. Alors, et cette métamorphose lui permettra peut-être de trouver sa place dans le paysage parisien. Des travaux, quand même, d'une valeur de 300 millions d'euros devraient être terminés pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Alors voilà, la dame de fer.
Paris se met au vert.
Oui, Paris se met au vert. Voilà.
Allons dans un autre lieu hautement touristique où une décision a également été prise pour protéger les gens et qui ne fait pas que des heureux. Je vous emmène cette fois-ci au Vatican où le pape a décidé d'interdire la vente de cigarettes. Le pape François a décidé d'interdire à partir de l'année prochaine, 2018, les ventes de cigarettes dans le magasin détaxé où les employés du Vatican peuvent faire leurs courses. La raison est très simple, le Saint-Siège ne peut pas contribuer à une activité qui affecte clairement la santé des gens, a expliqué jeudi le porte-parole du Vatican, Greg Burke, dans un communiqué. Aucun profit ne peut être légitime s'il met des vies en danger, a-t-il ajouté, en reconnaissant, mais sans donner de chiffres, que les cigarettes vendues à prix réduit représentaient une source de revenus pour le Saint-Siège. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabac est à l'origine de plus de 7 millions de morts dans le monde, chaque année, a rappelé le Vatican. Le pape François, qui a subi l'ablation d'un poumon à l'âge de 20 ans, ne fume pas, contrairement au personnage de pape interprété par l'acteur Jude Law dans la série à succès The Young Pope, le jeune pape, qui, lui, enchaîne les cigarettes. Mais les États pontificaux ont été parmi les premiers à importer la plante de tabac et des gravures anciennes montrent des papes en train de priser. En 2002, le Vatican avait promulgué, avant l'Italie, une loi interdisant de fumer dans les locaux publics sans bannir les cartouches de cigarettes de son magasin d'État. La petite gare ferroviaire du Vatican, offerte à la papauté par Benito Mussolini et quasiment jamais utilisée, a été convertie en 2003 en grand magasin de luxe pour une clientèle potentielle de 5 à 6 000 privilégiés, les employés et retraités du Vatican, mais aussi membres des ambassades auprès du Saint-Siège. Ils pourront continuer à acheter sacs, valises, montres, gadgets électroniques, parfums, ainsi que vêtements de marque qui n'ont rien d'ecclésiastique, totalement détaxés. Ils disposent aussi d'un magasin alimentaire et d'une pompe à essence au tarif, défiant toute concurrence, mais pour les cigarettes, c'est terminé.
Petite nouvelle d'un petit peu partout dans le monde, à Taïwan. Et Taïwan est récemment devenu le premier pays asiatique à interdire la consommation de viande de chat et de chien. Ce changement législatif est attribuable, entre autres, à l'amour que voue la nouvelle présidente du pays à ses deux chats et trois chiens. Peut-être qu'on en trouvera clandestinement, hein? L'équipe nationale, on s'en va au Japon, je pense. L'équipe nationale de volley-ball du Japon s'entraîne depuis peu à l'aide d'une équipe formée de robots, constituée de trois torses et de trois paires de bras et de mains qui se déplacent le long du filet. Ben, l'appareil est programmé pour adopter une variété de positions défensives afin de bloquer les attaques des joueurs adverses. Car il force aussi ces derniers à augmenter leur vitesse de jeu, ben, puisqu'ils se déplacent plus rapidement que les humains. Ben, y penser, hein? Alors, voilà. Et j'ai un petit tour à Amsterdam. Des cabanes d'oiseaux inusitées ont récemment été accrochées à des arbres. Au lieu de loger des moineaux, des mésanges, elles abritent un routeur Wi-Fi auquel l'accès n'est possible que lorsque la qualité de l'air est bonne. Trop de pollution? Pas de Wi-Fi. Une motivation de plus pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, des petites nouvelles glanées ici et là sur la planète.
Une dernière petite brève avant de passer à la pause. Toujours au Vatican, le pape demande aux fidèles de ranger leur téléphone pendant la messe. Il déclare « Cela me rend tellement triste quand je célèbre ici sur la place ou dans la basilique que je vois tant de téléphones portables en l'air. Et pas seulement des fidèles, mais aussi des prêtres et même des évêques. S'il vous plaît, la messe n'est pas un spectacle », a-t-il insisté. Après les cigarettes, les portables, le pape est décidément en forme en ce moment.
Vous êtes intéressé à un masque de Darth Vader?
Toujours.
1,75 million en dollars canadiens de prix de vente d'un masque de Darth Vader en or massif. Oh. Une pièce de collection qui pèse 15 kilos et qui a été fabriquée pour la bijouterie Ginza Tanaka de Tokyo. Son propriétaire voulait souligner le 40e anniversaire du premier film de la série. C'est un peu lourd à porter cependant. Hein? C'est pas seulement le prix, mais... un peu d'eau, 15 kilos.
Dans une vitrine sera probablement mieux.
Oui, exactement.
Nous prenons une courte pause et nous nous retrouvons juste après la pièce musicale. À tout de suite.
Tu m'as aimé dans un bain de sang. Tu nous as léchés avec tes gros coupants. Tu voulais me sombrer avec toi. Mais je dansais avec Dieu déjà. Tourner, aimer, c'est
Qui nous chantait « On danse par en dedans ».
On danse et on danse dans les feuilles mortes en ce moment dehors. Oui. Il fait plus frais. Et parlons de météo, justement,
oui,
je crois.
La météo, notre rapport avec la météo. Alors, dans toutes les régions du Québec, les propriétaires d'entreprises touristiques pestent devant l'alarmisme d'animateurs de radio, de présentateurs météo, météorologues et sites d'information québécois. Leurs prévisions, disent-ils, sont souvent déconnectées de la réalité. Ils nous disent, les médias font du sensationnalisme avec la météo pour faire augmenter les codes d'écoute. Avec l'arrivée du refroidissement éolien, l'indice humidex dans le vocabulaire, ben on fait peur aux gens. La chaleur devient accablante, le froid devient glacial. Un mélange de pluie et de vent se transforme en bombe météo. Et un ex-météorologue au ministère de l'Environnement du Canada, qui est maintenant à la retraite, constate lui aussi qu'il y a une surenchère en matière de météo. Chaque tempête devient bon, une sorte de spectacle. Les médias ne mesurent pas l'effet négatif de leur bulletin météo, déplore le milieu du tourisme. Selon une étude menée en 2014 auprès de 3000 Québécois, lorsque le temps s'annonce peu clément, ils annulent ou reportent leurs activités extérieures dans 80 % des cas. Quand on annonce 40 % de probabilité d'averse, les médias utilisent le pictogramme de nuages avec des gouttes de pluie. Or, cette probabilité signifie qu'il y a 60 % de chances qu'il ne pleuve pas. Alors pourquoi on ne nous annonce pas qu'il fera soleil plutôt? Et ça, c'est le directeur du marketing de l'entreprise des sommets. Ben, les stations de ski Mont-Saint-Sauveur, par exemple, et le parc aquatique Sommet-Saint-Sauveur, qui s'en plaignent, bien sûr. Alors, les prévisions météorologiques trop pessimistes, des pictogrammes alarmistes, la moue des commentateurs à l'approche de nuages, ben, font perdre au parc aquatique 6 à 7 jours, hein, sur une possibilité de 15 jours de très haut d'achalandage. Et ces journées creuses font très mal à des entreprises saisonnières. Depuis plusieurs années, la Société des attractions touristiques du Québec et des festivals et événements tentent de sensibiliser les médias québécois aux répercussions de leur bulletin météo. Mais ils nous disent qu'ils ne sentent pas vraiment d'ouverture de leur part. Les sources d'information les plus populaires au Canada, qui donnent des prévisions d'un océan à l'autre, ben, ce sont Météo Média, hein, qui est là, je pense, 24 heures par jour, à n'importe quel moment, on peut le prendre. Et vous avez son pendant anglophone, qui est de Weather Channel. La chaîne spécialisée atteint 500 000 foyers par semaine, à la télévision. Et bah, Météo Média, évidemment, se défend d'être alarmiste, de répandre de mauvaises nouvelles. Notre mission n'est pas d'encourager les gens à s'encabaner, mais de préparer à la pluie, aux tempêtes de neige ou autres aléas météorologiques. Régent Ouimette, qui est météorologue et présentateur depuis l'arrivée en ondes de Météo Média en 1988, convient que les pictogrammes déforment la réalité. La météo est trop complexe pour se résumer à une image. Les gens doivent aller plus loin et écouter les bulletins météo, pas se contenter de regarder seulement le pictogramme. La tendance est plutôt de jeter un coup d'œil rapide aux prévisions plusieurs fois par jour. Ce que je fais de façon générale, d'ailleurs, avant de partir le matin à 7 heures pour m'en venir ici, ben, je jette un coup d'œil, savoir comment m'habiller. Ben, évidemment, si on met un pictogramme de neige, ben, je m'habille un petit peu différemment. Et ça influence aussi le comportement des touristes qui peuvent écourter leurs vacances. Depuis janvier, Facebook propose un bulletin de météo à ses utilisateurs. Bon, le 25 avril à 9 heures, restez à l'abri aujourd'hui à Montréal, la pluie est au rendez-vous. Dans les fêtes, il tombera ce jour-là sur le centre-ville quelques gouttes de pluie à 16 heures d'après-midi. Certains animateurs et chroniqueurs chargés de parler météo ne connaissent rien à la matière. Le vocabulaire est utilisé à tort et à travers. Ça, c'est un météorologue qui nous dit ça. Hein? Par exemple, il y a une grande différence entre le terme pluie, qui signifie des précipitations continues, et averse, lequel annonce des précipitations qui commencent et cessent subitement. La terminologie n'est pas toujours bien comprise par le public. Quand le chroniqueur météo annonce 40 % de probabilité de précipitation en Shawinigan, par exemple, ben ça veut dire qu'il y a 40 % de risque qui tombe au moins 0,2 mm de pluie à un endroit donné de Shawinigan. Et pas nécessairement. Donc, les probabilités sont aléatoire. Et c'est encore pire pour les prévisions à long terme. Et ça me frappe à chaque fois. Les médias sont vraiment culottés de prétendre connaître le temps qu'il fera dans 10 ou même 14 jours. J'ajouterais alors qu'ils ont des difficultés à le prédire pour l'après-midi même. Et ça, c'est personnel, hein? À tort ou à raison, les vacanciers utilisent les prévisions sur 14 jours afin de planifier leurs vacances. Et ça, c'est les professionnels de l'industrie qui nous disent. Dès qu'on annonce la pluie, le téléphone se met à sonner. Les clients veulent annuler leur réservation 14 jours à l'avance. Alors, imaginez comment ça devient difficile pour ces gens-là. Dans le milieu des experts, on s'accorde pour dire que les prévisions à long terme sont peu fiables. Alors, pourquoi les médias diffusent-ils cette information? Cette tendance à l'hyper-dramatisation de la météo par les médias et par le public, et ça, c'est assez particulier comme remarque, ça reflèterait le vieillissement de la population. Et ça, c'est une sociologue de l'Université d'Ottawa qui s'intéresse à ce phénomène-là. On vit de plus en plus à l'intérieur et on craint de plus en plus d'affronter des éléments. On entend souvent dire « on n'a plus les étés qu'on avait ». Mais on devrait dire « je n'ai plus l'âge que j'avais ». La météo, ça crée un éternel sentiment de frustration. Évidemment, les inondations qu'on a eues en mai risquent d'accentuer encore davantage la perception contre nombreux Québécois que la météo est plus hostile qu'avant. L'annulation d'activités à cause de prévisions météo a aussi des répercussions sur la santé des Québécois, puisque ça contribue à augmenter leur sédentarité, une déconnexion qui génère une panoplie de problèmes, comme une hausse du stress, l'anxiété, une baisse de la qualité du sommeil. Mais il est temps de changer nos perceptions concernant les prévisions météo. Au Parc régional du Poisson Blanc, lorsque des campeurs désirent annuler leur séjour par crainte de mauvais temps, des préposés leur rappellent que les prévisions à long terme sont rarement fiables, et que les probabilités d'averse ne signifient pas qu'il y aura des déluges. Dans les parcs nationaux, la CEPAC, qui connaissent des vagues d'annulation, quand les averses sont prévues, on construit des abris pour faire la cuisine, en espérant que la possibilité de préparer les repas sur barbecue à l'abri de la pluie encouragera les vacanciers. Au village québécois d'antan, je pense à Drummondville, si je ne me trompe pas. Ah ben, c'est ça. On propose une assurance météo. Si de la chaleur extrême ou une pluie abondante s'invite réellement lors de la visite, la prochaine sera gratuite. Ça, je trouve ça astucieux. Les entreprises s'adaptent et la clientèle aussi. Un amateur de golf de 37 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu scrute la météo en quête de mauvais temps. Quand on prévoit 40 % de risque d'averse, je cours au golf. Et je sais que la fréquentation et le temps d'attente y seront beaucoup moindres que par le beau temps. Voilà une bonne idée. Alors, voilà, c'est un peu notre rapport avec la météo et particulièrement les médias, hein, qui ont quand même une très grande influence.
Oui, et puis même s'il pleut dehors, des bonnes bottes, un bon parapluie, on peut quand même aller prendre l'air.
Tout à fait. Mais ça m'étonne toujours, tu sais, de voir qu'on donne 30 % 20 % parfois même probabilité de pluie et que le pictogramme montre de la pluie. Donc, si vous regardez rapidement, hop, vous mettez votre imperméable, ben non, 20 %.
Ben oui, regardez par la fenêtre plutôt qu'à votre écran.
Voilà.
Après les phénomènes météorologiques, je vous parle d'un phénomène économique et restons un peu dans la météo, d'une entreprise qui fait la pluie et le beau temps sur son marché. Je vais vous parler de Alibaba. Certains n'en ont pas entendu parler et pourtant c'est une énorme entreprise et on parle du marché chinois. Ici nous avons Noël, nous avons Black Friday, des réductions, des promotions en tous sens. Eh bien en Chine, rien de comparable à tout ça. Alibaba a vendu pour plus de 20 milliards de dollars en 24 heures. À minuit samedi dernier, les internautes se sont précipités sur leur téléphone pour saisir les rabais offerts à l'occasion de l'événement promotionnel lancé en 2009 par le géant chinois de la vente en ligne Alibaba et imité depuis par les plateformes rivales. Quel est cet événement ? Eh bien, il s'agit du jour des célibataires. À l'image du Black Friday américain, le 11 novembre, célébré comme jour des célibataires en raison de la succession de 1 dans la date, eh bien c'est l'occasion de doper massivement les ventes à grand renfort de promotion, avec à la clé des centaines de millions de colis. Vers 9h donc, samedi, Alibaba assurait avoir enregistré via son système de paiement électronique Alipay plus de 20 milliards de dollars de transactions sur ses plateformes depuis minuit. Ce chiffre ahurissant, équivalent par exemple au PIB annuel du Honduras ou à un tiers de celui du Luxembourg, surpasse le record de 18 milliards enregistré l'an dernier pour la journée et qui marquait déjà un bond de 32% sur un an. Signe des temps, 93% des transactions étaient effectuées via un appareil mobile selon Alibaba. Le groupe avait notamment invité la star américaine Pharrell Williams au gala lançant l'événement. Le numéro 2 chinois du secteur, JD.com, assure avoir, quant à lui, dépassé en moins de 8 heures 100 milliards de yuan de commandes, soit seulement 15 milliards de dollars. Électroménager, lait maternel, riz, vêtements, meubles, cosmétiques, ces soldes, n'oubliant aucun segment, sont considérés comme un baromètre des tendances de l'e-commerce et de la consommation chinoise. Pour Cheng Wabao, patron à 28 ans d'une usine de lits superposée dans le Yangsu, la journée représente en 24 heures un sixième des commandes annuelles. Sa bourgade est l'un des 1300 villages Toabao, du nom du principal site de vente en ligne chinois, vivant de l'explosion des ventes en ligne. Pour l'occasion, nous concédons d'innombrables rabais et n'en tirons quasiment aucun bénéfice, explique-t-il à l'AFP, assurant néanmoins être heureux d'y participer. Pour autant, sur les 140 000 marques proposées en promotion par Alibaba samedi, quelques 60 000 étaient étrangères, une proportion accrue pour séduire une classe moyenne grandissante et plus exigeante. C'est d'ailleurs sur ce créneau que JD.com, mais également d'autres plateformes rivales plus petites, entendent se distinguer, à l'image de NetEase Kaola, fondée en 2015 et focalisée sur les articles importés haut de gamme, notamment alimentaires. Le lourd tribut de cette frénésie consumériste fait payer à l'environnement est en revanche dénoncé par des ONG qui accusent volontiers Alibaba et ses pairs d'encourager les achats compulsifs et la multiplication des emballages. Pour Ni Li, militante de Greenpeace, le jour des célibataires est un désastre écologique, ayant généré l'an dernier 130 000 tonnes de déchets d'emballage, dont seuls 10% avaient été recyclés. L'e-commerce produit plus d'émissions à effet de serre que les magasins en dur, assure-t-elle. De fait, Alibaba, qui domine quelque 55% du marché chinois des transactions d'entreprises à particuliers sur Internet, encourage vigoureusement l'explosion de l'e-commerce chinois, dont il profite pleinement. Sur juillet-septembre, ses revenus ont bondi de 61%, l'amenant à relever ses prévisions annuelles. Mais face à une concurrence acérée, le mastodonte créé par l'emblématique milliardaire Jack Ma investit massivement dans l'intelligence artificielle, des algorithmes plus performants et l'accumulation de données, et des interactions toujours plus étroites avec les commerces en dur. L'idée est notamment de suivre plus étroitement les tendances de vente des magasins et en retour de leur prodiguer des conseils de produits, de gérer des stocks sur plusieurs sites, mais aussi de faire de certains magasins des bases de retrait de colis. Enfin, Alibaba ne cache pas son ambition de muscler tous azimuts, sa présence à l'international, particulièrement en Asie du Sud-Est, où il contrôle déjà la plateforme de l'e-commerce Lazada et où il a lancé en Malaisie un ambitieux hub logistique. Selon le groupe chinois, des centaines de millions d'internautes d'Asie du Sud-Est devaient justement prendre part samedi au jour des célibataires. Ce n'est que le début. À coup d'investissement de milliards de dollars à l'étranger, Alibaba pourrait bien finir par dominer l'e-commerce dans les pays en développement, assure un analyste indépendant basé à Pékin. Voilà pour cet énorme phénomène économique et écologique qui se produit et dont on entend très peu parler ici, mais je trouvais intéressant et pertinent de vous en faire part.
Ah, les chiffres sont hallucinants. Mm-hmm. 140 000 marques différentes. Vous imaginez l'inventaire, les entrepôts.
On n'arrive même pas à se représenter.
C'est ça, c'est difficile.
Ça devient justement des
chiffres. 130 000 tonnes de déchets d'emballage. C'est inimaginable. Alors, à un certain moment donné, j'avais commencé à vous parler de différents coups de cœur que j'ai eus en me promenant sur la planète. Il y en a un qui me vient à l'esprit, qui est le Machu Picchu, qu'on entend de plus en plus parler, mm-hmm. de plus en plus visité, qui est la cité perdue des Incas. En fait, le nom Machu Picchu signifie « vieille montagne ». C'est une ancienne cité Inca du 15e siècle, qui serait disparue vers 1534, évidemment, à cause de la domination espagnole, qui a fait disparaître les Incas, la civilisation Inca, qu'on a retrouvée dans les Tintins par la suite. Civilisation, on les a retrouvés. Je pense que c'est Tintin au Pérou ou quelque chose du genre. Alors, ça a été on dit que ça a été découvert par un archéologue américain d'Université Yale du nom de Hiram Bingham, c'est ce qui circule, qui était commandité par National Geographic. Mais elle avait été découverte auparavant. En fait, Hiram Bingham, c'est lui qui a fait les travaux et qui l'a fait connaître dans le monde. C'est désigné comme l'une des sept nouvelles merveilles du monde. Et évidemment, il y a eu, comme dans la plupart de ces endroits-là, particulièrement au Pérou, il y a eu énormément de pillages des artefacts. C'est quand même 2438 mètres d'altitude. Et bon, la façon dont je l'ai fait, j'ai accédé par le train en venant de Cusco, qui est la ville la plus proche, et qui était assez particulier comme train. C'est vraiment une découverte, parce que tout le long de la voie ferrée, vous avez des gens qui sont assis, et le train s'arrête à tout moment. Et là, par la fenêtre, on vous passe un morceau de viande qui est là depuis le matin, quand vous passez à 3 heures l'après-midi, et toutes sortes de denrées comme ceci. De mon côté, j'avais couché à un endroit qui s'appelle Aguas Calientes, qui est le long de la ligne, parce que ça nous permettait le lendemain de se rendre à pied par la voie ferrée très tôt, avant l'arrivée de la horde de touristes. Parce que maintenant, ça arrive à plein autobus de touristes. Et on a une navette pour aller au sommet, parce que vous avez une route en lacet qui s'appelle bien sûr la route Hiram Bingham. Et qu'est-ce qu'on trouve au sommet? Dans le fond, on trouve des ruines. Tout simplement. Et c'est Machu Picchu, c'est connu à cause de son paysage mythique et qui est vraiment fascinant, particulièrement la culture en terrasse. On dirait des escaliers de géants d'une certaine façon. Et aussi, peut-être la vue la plus connue qu'on puisse avoir, cette carte postale ou un peu partout, c'est, vous savez, le pic très élevé. C'est ce qui frappe le plus quand on parle de Machu Picchu, alors que Machu Picchu, c'est d'ensemble, c'est le lieu. Et ce pic-là s'appelle le Huayna Picchu, qui veut dire le vieux Picchu. Et je me souviens que le guide a dit, « Bon, cet après-midi, ceux qui sont en forme, on monte au sommet. » Moi, je pensais que c'était une boutade. Parce que je me disais, c'est une aiguille, comment on monte. Non, c'est pas une boutade. Ça se fait, mais difficilement. Vous faites le tour d'une certaine façon et vous venez après une chaîne pour monter au sommet. J'ai vu plus de gens redescendre que de gens monter, parce qu'après un certain temps, mais la vue en vaut la peine une fois que vous arrivez complètement au sommet. Vous devez passer à travers une espèce de petite caverne très, très, très étroite, et là, vous voyez tout l'ensemble de la région, avec l'Urubamba, la fleur Urubamba en bas, et l'ensemble, et la route enlacée Irambingham. Et au sommet, on y trouve des noms mythiques, mais qui sont des ruines, dans le fond. Le cadran solaire, le temple du soleil. Oui. Est-ce que c'est pas le nom de
Jabin? Je pense que c'est...
Oui, c'est ça, c'est pas Tintin Pérou. C'est le temple du soleil. Mes vieux souvenirs de Tintin sont déjà loin. Donc, le temple du soleil, dans le fond, vous ne trouverez pas un temple à cet endroit-là. Et bien sûr, il y a une mascotte au sommet, qui est un alpaga. L'alpaga, vous le savez, c'est une autre forme de lama. Est-ce que le lama ou l'alpaga crache, comme dans Tintin? Si vous l'ennuyez,
oui.
Parce que, non, ils sont très doux, très... Mais si vous l'avez et vous le prenez pour prendre la photo, ça se peut qu'il tourne de bord et que, oui, j'ai connu le phénomène. Et la redescente est assez particulière. C'est un site mythique, c'est vraiment un site extraordinaire. Mais malheureusement, comme tous ces sites qui deviennent connus, c'est l'évasion des touristes. Et je pense qu'on a été obligé, si je ne m'abuse, de le fermer pendant un certain temps, justement pour essayer de restaurer le site qui était... Et on sait que les masses de touristes ne sont pas toujours respectueux des lieux. Mais je peux vous dire que dans mon esprit, c'est quand même un site mythique et un magnifique souvenir.
C'est la fin de l'année approche doucement il va être le temps des calendriers bientôt. Eh bien, j'ai une idée à vous proposer, un calendrier d'hommes sirènes qui fait un malheur en ce moment. Poussez-vous les pompiers à gros bras, ces terre-neuviens sont poilus et barbus, parfois enveloppés, disons costauds, et ils portent sans gêne le costume de sirène. Leur histoire fait maintenant un malheur sur les médias sociaux et dans le milieu de la philanthropie. La trentaine de gaillards a posé sur les rochers ou les quais du petit village de pêcheurs de Quidividi, chez le barbier ou dans un champ de citrouilles. On s'arrache maintenant leur calendrier 2018 sur Internet, de partout dans le monde, même à 25$ pièce. Les gars du club des barbus et moustachus de Terre-Neuve et Labrador voulaient amasser des fonds pour un service d'équitation thérapeutique destiné aux adultes et aux enfants. Les gaillards se définissent comme des « merbies », un mot valise qui allie mermaid, sirène, et bee, comme boy ou buddy, gars, en argot terre-neuvien. Au-delà de la bonne cause, Jason Percy admet qu'il est quand même libérateur de porter la queue de sirène, le collier de coquillage et le ruban d'algues quand on n'a pas, disons, le physique de l'emploi. Ça démolit les stéréotypes et les rôles genrés, lance l'entrepreneur de Saint-Jean, aussi engagé dans sa communauté. Et sur la photo, si on regarde bien, on peut déceler quelques vestiges de ma bonne forme d'antan. C'est tellement fou, tellement plaisant. Tout le monde devrait relaxer un peu et arrêter de prendre la vie trop au sérieux. Les organisateurs ne veulent pas encore dévoiler le chiffre des ventes atteint jusqu'ici, mais on précise toutefois sur leur site internet du Club des Barbus que les nouvelles commandes seront seulement livrées d'ici le 27 novembre.
Il semblerait qu'il y ait une nouvelle tendance en voyage. C'est le food surfing, qui consiste à profiter d'un séjour à l'étranger pour aller manger chez l'habitant. Et, ça veut dire, c'est pas gratuit toutefois. Chaque repas est réservé sur un site. Coûte environ 35$, ce qui comprend une assurance contre les empoisonnements et les intolérances alimentaires. Parce qu'on ne sait jamais. Hein.
Il faut toujours se méfier de ce qu'on a dans son assiette. Merci Michel. C'est la fin de cette émission. Je remercie Michel Audet pour ses textes, toujours intéressants comme d'habitude. Merci également à notre ami Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Et puis nous vous disons à la semaine prochaine. Oui. Nous nous retrouvons mardi prochain à la même heure. On sera là.
Tout à fait.
Bonne semaine à vous.
Bonne semaine, au revoir.